Radio Spirale. À l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de l'Oulipo, l'Agence universitaire de la francophonie organisait une rencontre en lecture entre quatre Oulipiens et quatre auteurs québécois. Nous entendrons ainsi du côté de l'Oulipo, Marcel Bénabou, son secrétaire définitivement provisoire et provisoirement définitif, Paul Fournel, son président, Hervé Letellier ainsi que Yann Monk, et du côté du Québec, Louis Gauthier, Yolande Villemaire, Geneviève Letarte et Mathieu Arsenault. La rencontre avait lieu au Centre d'archives de la Bibliothèque nationale à l'automne 2011.
Bienvenue. Il me fait bien sûr grand plaisir de vous accueillir au Centre d'archives de Montréal. Nous accueillons cette semaine en nos murs deux activités mettant à l'honneur la littérature et la langue française grâce aux bons offices de l'Oulipo. L'ouvroir de la littérature potentielle pour les non-initiés. La programmation oulipienne prend la forme ce soir d'une lecture-spectacle inédite pendant laquelle les Oulipiens rencontreront leurs collègues québécois pour s'amuser avec nous au détour de contraintes de toutes sortes avec la langue française. Tour à tour, Mathieu Arsenault, Marcel Bénabou, Paul Fournel, Louis Gauthier, Geneviève Letarte, Hervé Letellier, Yann Monk et Yolande Villemaire se mesureront avec brio, sans nul doute, à cette langue riche et inépuisable qui est la nôtre. C'est donc en souhaitant avoir le plaisir de vous croiser dans nos locaux que je vous souhaite une excellente soirée pour l'amour du français.
Vous allez en commencer par entendre les quatre premiers écrivains que vous avez devant vous. Ensuite, on va prendre un petit battement de quelques minutes pour changer de rôle, changer de place. Alors, les quatre premiers à prendre la parole, dans l'ordre, Monsieur Paul Fournel, Madame Yolande Villemaire, Monsieur Ian Monk et Mathieu Arsenault. Alors, bonne lecture à tous.
Merci beaucoup. Je suis donc chargé d'ouvrir cette soirée de lecture au nom de notre passion et notre amour pour la langue française. Donc, j'ai décidé de vous lire tout d'abord un texte de Georges Perec qui vous donnera une idée de un petit peu de l'ensemble des travaux que l'Oulipo peut faire subir un malheureux texte. Le texte souche que Georges Perec a choisi et retenu est une sorte de trésor national dans la langue française. Les Anglais ont « to be or not to be », les Italiens ont « Italia fara da sé » et nous avons « longtemps, je me suis couché de bonheur ». Texte souche, donc « longtemps, je me suis couché de bonheur ». 01, réorganisation alphabétique. B, C, C, D, E, 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 G, H, H, I, J, M, M, N, 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 O, 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 P, R, S, 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 T, U, U, U. Deux, anagrammes. L'anagramme consiste à brasser les lettres pour obtenir un autre énoncé. Donc voici l'anagramme. Hé, Jules, ce môme chenu de Proust songe bien. Anagramme autre, je cherche le temps bougé ou semé d'un sinon. 04, lipogramme. Le lipogramme consiste à se priver d'une lettre de l'alphabet. Donc voici un lipogramme en A. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. 05, lipogramme en I. Longtemps, nous nous couchâmes de bonne heure. 06, lipogramme en E. Durant un grand laps, on m'alita tôt. 07, translation. Lugubrement, je me suis couronné honteusement. Alors, 08 pose un problème technique considérable au lecteur. Il s'agit d'un palindrome strict. Le palindrome est un texte qu'on peut lire dans les deux sens, hein, Roma à mort ou élu par cette crapule. Élu par cela. Et donc là, alors là, évidemment, avec longtemps je me suis couché de bonheur, ça marche moyen. Bon. Je tente ma chance. Hein. Et rue et en obède, écu oxy usé me sp metniol. C'est pour l'amour du français, mais peut-être un amour un peu exagéré dans ce cas-là. Alors 09, un bourdon, et un bourdon c'est quand une lettre s'envole, hein. Longtemps je me suis coché de bonheur, double bourdon, longtemps je me suis coché de bonne hure, une épinthèse ensuite, longtemps je me suis coluché de bonheur, la négation bien sûr, 12, longtemps je ne me suis pas couché de bonheur, l'insistance, numéro 13. Pendant très longtemps, oui, moi, je me suis couché, je suis allé au lit, quoi, de très bonne heure, de très 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 bonne heure, vraiment, de très 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 bonne heure. 14, ablation, je me suis couché de bonne heure. 15, ablation autre, longtemps je me suis couché. 16, double ablation, je me suis couché. 16A, triple ablation. 17. Triple contresens. Jadis, j'acceptais de perdre le match à l'aube. 18. Autre point de vue. Marcel, au lit. 19. Variation minimale. Longtemps, je me suis bouché de bonheur. Longtemps, je me suis douché de bonheur. Longtemps, je me suis mouché de bonheur. Longtemps, je me suis touché de bonheur. 20, antonymie. Une fois, l'autre fit la grasse matinée. 21, amplification. Éternellement, je me recouche de plus en plus tôt. 22, diminution. Parfois, je ne m'étendais pas trop tard. 24, contamination croisée. Oh, on est dans la littérature, là. Petit A, le 15 mai 1796, je me suis couché de bonne heure. Petit B, longtemps le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. 25, isomorphisme, construction identique. Une fois sur deux, le confiteor se chante a cappella. Deuxième isomorphisme, généralement, le peroxydase de potassium s'évapore vite. 26, synonymie. Pendant plusieurs années, j'allais au lit tôt. 27, fine déduction. Dès mon plus jeune âge, je me suis intéressé à des histoires de plumes. 28, contamination autre. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, je me suis couché de bonne heure. 29, isoconsonantisme. On garde la séquence des consonnes, on change les voyelles. L'art, toujours mou, se cachait dans Ben-Hur. 30, isovocalisme. On garde la séquence des voyelles, on change les consonnes. Qu'on rende le fruit fourré cher aux veuves. 31, isophonisme. Alors évidemment, ça ne veut rien dire quand on le lit, hein, c'est pas fait pour être lu. Donc je vous le lis. C'est l'onte en germe S8. Couche et de bon heure. Donc, si vous êtes sage, vous pourrez le regarder à la fin. Je vous ferai voir. 32, boule de neige, clinaménoïde. La boule de neige, vous voyez, c'est cet objet-là. C'est un poème tel que le premier vers est constitué d'un mot, d'une lettre, puis de deux, puis de trois, ainsi de suite. C'est comme les boules de neige qu'on roule. Vous connaissez ça très bien à Montréal. Hein, on roule comme ça et la boule grossit. Donc, le poème devient énorme comme ça. Et donc, voilà. Alors, j'ai été long. Temps, couché, dorloté, embrassé, rondement, diablement, suprêmement, de bonheur, Marcel Proust. Hétérosyntaxisme, donc là c'est syntaxe différente, de nombreuses années me connurent couche-tôt, 34 alexandrin, il n'y a pas de français sans alexandrin, fort longtemps je me suis couché de très bonne heure, 35 interrogation, je me serais longtemps couché de bonne heure. Nous laisserons le lecteur en proie à cette douloureuse question. Alors toujours au nom de la passion pour la langue française, qui a tout de même ses limites, voici une exploration que j'ai entreprise sur le texte inexistant, qui limite d'ailleurs l'usage du français. Enfin bon, c'est ainsi. Errata. Suite à des problèmes survenus au marbre, La nouvelle intitulée « La jeune fille » que nous avons publiée dans notre dernier numéro comportait quelques erreurs dont vous voudrez bien nous excuser. Page 1, ligne 4, lire « Robert » au lieu de « Norbert ». Page 2, ligne 8, « Mimi » au lieu de « Sissi ». Page 2, ligne 12, « Retort » au lieu de « Retour ». Page 4, ligne 1, « Norbert » au lieu de « Robert ». Page 5, ligne 2, plutôt que « Elle le rencontra au bal », lire « Elle le rencontra au bar ». Page 6, ligne 8, « Robert » au lieu de « Norbert ». Page 8, ligne 3, au lieu de « Louis se pencha sur elle et plongea dans le bleu de ses yeux », lire « Louis se pencha sur elle et plongea ses doigts dans ses yeux ». Page 8, ligne 7, « Module » au lieu de « Modèle ». Page 11, ligne 11, « Norbert » au lieu de « Robert ». Page 12, ligne 14, au lieu de « Elle prit un malaise », ce qui n'arrangea pas ses problèmes familiaux, lire « Elle prit un balèze », ce qui n'arrangea pas ses problèmes familiaux. Page 15, ligne 3, lire « Cache » au lieu de « Cache ». Page 16, ligne 3, « Robert » au lieu de « Norbert ». Page 18, ligne 7, au lieu de... Voilà, c'est bien ça. Page 18, ligne 7, évidemment, j'avais oublié cette erreur. Au lieu de « Le geste de Louis lui toucha le cœur », lire « D'un geste, Louis lui toucha le corps ». Page 20, ligne 9, « Norbert » au lieu de « Robert ». Page 20, ligne 11, « Calme » au lieu de « Clame ». Enfin, page 21, la toute dernière phrase du texte n'est pas « Bouleversé du bonheur d'avoir dit oui dans la cathédrale, il leva les yeux vers Dieu et se frappa deux fois le cœur », mais bien « Bouleversé de fureur d'avoir vu Louis dans la cathédrale, il bascula son prie-Dieu et le frappa deux fois au cœur. » Mais là, le lecteur aura rectifié de lui-même. Voilà, on m'a dit 10 minutes, il a dit 10 minutes. Alors je vais vous lire deux tout petits poèmes, deux animaux d'amour par exemple, avant de passer la parole à ma voisine de gauche. Par exemple, le lémurien naciré. Il s'agit de portraits d'animaux comme ça, et donc voilà. Donc le lémurien naciré. Qui c'est qui s'en tamponne, qui s'en moque et qui s'en fout? Qui c'est qui piétine son petit, écrase sa maman, son papa, son prochain, et qui va son chemin sans se retourner, qui saute haut, bras écartés, qui danse, et qui ne veut rien voir de ses deux yeux de bille? C'est le lémurien naciré. Commun sur l'île rouge et se moquant de tout, animal désastreux, tissé d'indifférence, qui n'a rien à brosser de sa propre engeance, qui danse en se moquant, lémurien naciré du tout. De vos grands bois, le cerf les fesses. Contrairement au mouton à grosses fesses, son cousin, contrairement au bon coco-fesses, son voisin, le cerf les fesses est un couard. Toujours inquiet, toujours trouillard, jamais quillet, jamais peinard. Il craint pour ses grands bois dans les basses branches, il craint pour ses sabots dans le marigot, il craint pour son zizi quand il biche, il craint pour sa panse quand il broute, avant de manger il goûte, il chipote, il picore, il fait sa pécore, il craint l'épine pour son cuir, le vent pour ses frisettes, le froid pour son échine. Il est étroit, il est serré, on le reconnaît de dos. C'est à Yolande Villemer, c'est écrit sur mon papier.
Merci Paul. Je te parle tout bas pour que ce soit clair, pour que le son s'ajuste au timbre de ma voix, pour que ma voix s'ajuste au timbre de ce son qui est le son du soi. Pour l'amour du français, j'écris une version québécoise du français international. Un français métissé, contemporain, urbain. Un français qui bat au rythme du monde. La poésie, je l'écris dans une langue qui m'a été transmise par Évangeline Larose de Saint-Augustin, comté agricole des Deux-Montagnes, et par Normand Villemer de Lac aux Écorces dans les Hautes-Laurentides. Une langue implantée en terre d'Amérique il y a 400 ans, et déranché sous le régime de la Province of Quebec. J'écris par oreille une poésie mouvante dans laquelle s'entendent les accents et les ruines sonores des langues amérindiennes disparues entre Kanisatake, Mayostewash et Maniwaki. J'écris de la poésie foule québécoise au galop d'un joual pas barré dans lequel on entend encore la rumeur des langues rouges évanouies de ce territoire depuis la fondation de la Nouvelle-France. Je parle une langue voyageuse qui active le résonateur du cœur, une langue bien réelle, une langue qui peut nous faire filer rejet des fois, comme le disait si bien le poète Gaston Miron, « C'est ma langue à moi, ma langue à nous ». Je parle et j'écris par oreille une langue mouvante dans laquelle murmure une polyphonie de voix. Les chansons à répondre de mon enfance, les échos du cyberespace et le son du soi. Écrire de la poésie en français au 21e siècle fait scintiller la moire et la mémoire de notre langue sur les 5 continents. Voici donc, pour commencer, un texte sur Montréal bilingual et ses fakirs urbains. Il s'agit d'un extrait de mon recueil L'Armour, publié en coédition aux Écrits des Forges et aux éditions FI en 2009. L'hiver de force est dans nos murs. Une reine de jeu d'échecs qui, toute sa suite, s'avance dans la slot irradiée, en cotte de maille et de dentelle. Elle marche à travers le temps, sur les trottoirs glacés d'une ville du Nord. Sous un ciel en mouvement, errante tatouée, aux portes de la ville souterraine, Manitou autochtone au visage de cuir tanné, cheveux au vent dans la poudrerie, les oreilles bourdonnantes de la musique du monde, dans la nuit indigo aux odeurs de fast-food, survivante, les yeux pleins d'eau, dans une ville Marie hallucinée, Windigo, chien d'or, carcajou des ruelles, chat sauvage des parkings. Elle marche à l'amour, dans une volée de cloches et le bip-bip angoissant des souffleuses s'arrête à un coin de rue, dans cette neige qui n'en finit plus de neiger, et chante bilingual. Troubadour d'armour tremblante, je chante une viole d'amour dans les bras. Un passant met une pièce dans la patte sale de l'aveugle. Montréal chante et tu l'entends, poète, tu l'entends. Listen to the pitch of her step. Un sans-abri titube et marmonne son écolalie sous le porche de la grande bibliothèque. Ils sont deux, traders, courtiers, experts en communication, dans une Samarcande internationale, à trafiquer un chargement de sens. L'un fait de la com en composant un tweet sur son sel, l'autre c'est toi, poète, toi qui te tiens à la frontière. Speak white. Avide de son, un fleuve noir d'orgone dans tes yeux de faune, tu fais passer deux mondes l'un dans l'autre. Tu écoutes les cris de la bête, les rugissements de la faim, de la soif, du besoin, mantra des itinérants acrobates du métro, fakirs urbains, cracheurs de feu. Des vierges de leurs illusions, des filles aux cheveux bleus se shootent dans un terrain vague pour endormir leur désespoir. Puis, elles se laissent tomber sur le flanc, lionnes de pierre à l'agonie. Des lamentations de cours des miracles montent du ventre de la ville, caravans sérailles de puanteur d'essence, sirènes d'ambulance, gyrophares, violence des logos, signatures occultes sur des blocs de béton, lent effacement de la couleur. Ton corps le sait, poète, ton corps le sait. Tu sens le souffle des gorgones sur ta nuque, chimères astrales au bord du gouffre de ta gorge. Soudain, deux ballerines en mitaine, en gora, vont allègres, bras dessus, bras dessous, dans le miracle de la beauté, comme dans une boîte à musique. En un tour de passe-passe, tu franchis la passerelle qui mène à elle, et tu souris, poète, ravi. Vêtu de peau et de fourrure, un vieil homme couvert de neige semble sortir tout droit d'une forêt profonde. Chaman traquant les courants telluriques du centre-ville, illuminé de l'intérieur, il fend la foule de 5 heures du soir. On dirait qu'il sait quelque chose qu'on lui aurait révélé en haut lieu, sous le sceau du secret le plus absolu. Tu sursautes au crissement des pneus d'un véhicule tout-terrain. Un cycliste terrifié se signe juste avant de rouler sous le viaduc. Le trafic est enragé. Tu marches vers la montagne dans l'éclairage acide des réverbères. La neige neige. Un punk à la crête ondoyante fume sur le trottoir. La cavalcade des messagères de la mort se déchaîne sur son visage scarifié de piercings. Vos regards se croisent. De grands draps de lumière boréale flottent sur la ville noire. Tu te loves, poète, dans une délicate opération. Tu syntonises, tu balances le son. Ton corps le sait, poète, ton corps le sait. Tempête de glace, ocre d'octobre, rutilance des soleils couchant, ombre d'aubombre, aurore rose, les couleurs de Montréal tournent cette fois dans ta bouche, poète, et tu te tais, hiératique de vérité. Nous entrons dans le fleuve mer, alertés par le nuage de smog. Montréal, ville sauvage bilinguale, chante sa glossolalie, et tu l'entends, poète, tu l'entends. Troubadour d'armour tremblante, je chante une viole d'amour dans les bras. Pour changer de registre maintenant, je vais enchaîner avec Claude à mon iPad, un texte extrait de mon dernier recueil Micro-poésie, paru le printemps dernier. Je regarde bouger le monde, des empires s'effondrer, des civilisations se reconstruire sur mon iPad pendant qu'il m'apporte mon petit déjeuner au lit. Des tankas passent sous mon radar, des villes brûlent, la terre tremble. J'écris un haïku sur mon iPad. J'envoie des vœux avec une photo par courriel de mon iPad. Je parcours le monde, le New York Times, Cyberpresse et Le Devoir sur mon iPad. Dans le métro, je lis Neuromancer, un roman culte des années 80 sur mon iPad. Un monde visionnaire peuplé de mutants. Sur le site de l'ONF, de jeunes Amérindiens courent comme des fous la nuit dans des villes perdues du Nord, parce qu'ils se meurent d'ennui. Je regarde passer la bête lumineuse de Pierre Perrault et je change de nouveau à Assassin's Creed sur mon iPad. Je consulte le portail lexical quand j'écris un Chazal en français et le Webster quand j'écris en anglais sur le temps, en écoutant Dreamland d'Émilie Simon. J'utilise le Real Academia pour répondre à mon éditeur de Guadalajara et je Google Traduction pour l'arabe, tandis que le Moyen-Orient clame sa colère en direct d'Al Jazeera sur mon iPad. Je constate que le soleil se lève à 6h36 aujourd'hui à Montréal et je découvre l'étoile Anka de la constellation du Phénix dans Star Wars. J'assiste à des réunions sur Second Life en mode texte et j'achète des livres papier sur le cerveau de Bouddha, l'Égypte ancienne et le I Ching avec mon iPad. Je montre à mon père un diaporama de mon voyage en Inde. Il dessine en souriant un paysage sur mon iPad. Je commande un cadeau en ligne pour le bébé de ma nièce et le dernier Arcade Fire en version numérique. J'écris des fractales narratives et je navigue dans mes boîtes de courriel. Je veille parfois trop tard pour faire du Twitter tennis avec une amie de l'autre côté du monde. Je m'abonne à des vidéos mises en ligne par des artistes berlinois qui s'interrogent sur le futur de l'art. Je navigue dans Google Earth à la recherche d'une île perdue dans l'océan Indien. Je fais ma liste d'épiceries, je note mes rêves dans le halo de lumière de mon iPad la nuit. Je vais chercher un document dans le nuage, je synchronise mes notes. J'inscris dans le calendrier mes rendez-vous chez la manucure qui m'a parlé de Netflix. Je ris en voyant le monde dans l'écran de fumée de Mad Men. Et je réécoute en boucle Lotus Flower de Radiohead sur mon iPad. Merci. Merci. Alors, on va maintenant entendre Yann Monk. Merci.
Donc, dans l'indifférence quasi totale par rapport à la langue française dans laquelle je vivais quand même en France, donc il fallait bien que j'écrive en français de temps en temps. Donc, voici l'un des premiers textes que j'ai écrit en français. Au commencement était le Verbe. Il y a une vieille blague anglaise qui dit « In the beginning was the word, and the word was aardvark. » Au commencement était le mot, et le mot était aardvark. Donc le premier mot, mis à part l'article « a », dans la plupart des dictionnaires anglais. Malgré plusieurs heures de recherche, je n'ai pas trouvé le terme français, s'il y en a un, pour aardvark. Je précise donc qu'il s'agit d'un quadrupède sud-africain, une sorte d'intermédiaire entre le fourmilier et le tatou, et donc un membre de la famille des édentés. Voilà, vous savez tout. Mais comme vous le savez tous, en France, la version classique du début de l'évangile selon Jean ne dit pas le mot, ni même la parole, mais le verbe. Au commencement était le verbe, et le verbe était avec Dieu, et le verbe était Dieu. Il me semble intéressant que le français aime mieux le verbe que le mot, et bien que l'origine latine du mot verbe, verbum, veuille dire justement mot et pas verbe, supposons pour un instant que le premier mot, qui était avec Dieu et était Dieu, fut précisément un verbe et pas un nom, un adjectif, une conjonction ou autre. Cela n'est sûrement pas complètement dépourvu de logique. Que s'est-il passé au commencement? Dieu a agi, il a créé, il a fait. Et c'est seulement après qu'il a donné à Adam la tâche plutôt fastidieuse de nommer tous les animaux. Donc, si le premier mot était effectivement un verbe, de quel verbe s'agit-il? Si nous pouvions le retrouver, nous ferions un grand pas vers l'origine du langage. Car la langue anglaise est bien sympathique, mais sa proposition de « aardvark » ne fera pas l'affaire. Même s'il a été nommé le premier par Adam, le verbe de l'action a bien précédé le substantif, comme nous venons de le voir. Donc, quel était le premier verbe? Voici la réponse française à cette question. Alphabétiquement, le premier verbe qui apparaît dans le Grand Robert, le Larousse, le Littré et compagnie est ABC. Ah oui, ABC. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Mais mis à part sa géniale concordance abécédaire, est-il un choix adéquat? Je dirais que oui. Dieu s'est abaissé sur le chaos avant de créer l'ordre relatif que nous connaissons aujourd'hui. Et par la suite, Adam était obligé d'abaisser sa volonté devant celle de Dieu. La leçon pour Adam était triple. À la fois, il a pris son premier mot, son destin d'abaissement et le début de l'alphabet. Mais quel but peut avoir le langage sans communication? Et de préférence, communication entre les gens, et pas juste avec Dieu ou avec les animaux. Car n'oublions pas qu'Adam était seul. Et le langage est surtout un jeu de désir et de partage. Adam ne parlait pas encore, à vrai dire. Parce que prier ou créer une liste de substantifs ne constitue pas ce que nous pourrions appeler une langue. Un jour, se lassant de ces listes de substantifs, Adam commençait à répéter le seul verbe qu'il connut, abaisser. Abaisser. Et malgré ses apparences d'homme physiquement mûr, mentalement, il était bien sûr toujours un petit enfant. Et comme pas mal d'enfants, il zozotait. Il se promena donc dans le jardin d'Eden en murmurant « Ah, bébé! Ah, bébé! Ah, bébé !» Puis abasourdi, il s'abassa sur la terre et s'endormit. Le bon Dieu entendit ces paroles et, ayant mal compris ce qu'il voulait dire, créa la femme, avec toutes les connaissances que nous connaissons. Ce qui semble prouver que, A, le verbe était bel et bien au commencement de tout, B, les défauts de prononciation peuvent avoir des conséquences dramatiques, C, le français, contre toute attente, est la langue originelle parlée par Adam, et l'hébreu, le latin, etc., ne sont pas que de vulgaires plagiats par anticipation. Et ensuite, les années passent et je commence à écrire des poèmes carrément en français. C'est dingue, hein? Donc, avant de naître. Avant de naître, il y a le silence, le vrai. Avant de naître, il y a le noir, mais total. Avant de naître, il y a une dalle, mais astrale. Avant de naître, il y a le gaz de mer. Avant de naître, il y a la musique des gens. Avant de naître, il y a le goût du chocolat. Avant de naître, il y a la voix du père. Avant de naître, il y a un moment de panique. Avant de naître, il n'y a pas peur de mourir. Le bébé regarde le monde, ou bien il tète. Le bébé a les yeux ouverts, aveugles peut-être. Le bébé chie, dorme, rechie, redorme, re-rechie, re-redorme. Puis le bébé ne voit que dalle, peut-être toi. Le bébé sont adorables, regarde, ils te ressemblent tellement. Le bébé pèse sûrement plus lourd que l'enclume. Le bébé, c'est la vie, celle qui peuvent. Le bébé te réveille 5-6 fois la nuit. Le bébé te nique tes beaux sangs en tétant. Les enfants crient, font chier au centre de loisirs. Les enfants se bousculent au supermarché et puis merdent. Les enfants non accompagnés sont interdits dans ce magasin. Les enfants martyrs, il y en a tellement, et alors? Les enfants rois seront vite décoronés et bien faits. Les enfants ne savent pas la chance qu'ils ont. Les enfants ne marchent pas, ça traîne, bordel de merde. Les enfants ne mangent pas, ça grignote, putain de merde. Les enfants, une bonne gifle, ça n'a jamais nui. Les pré-ados existent maintenant, ils ont pris leur marque. Le pré-ado, moi, ça n'existait pas à l'époque. Le pré-ado, c'est pénible comme les mômes, quoi. Le pré-ado, c'est pas encore vraiment chiant comme les pré-ado qui sont devenus les vrais ados, mais les pré-ado demain, il faut avoir de la patience alors. Le pré-ado commence à se faire des tatouages, puis le pré-ado commence à se faire des piercings, puis le pré-ado sort la tête trouée de l'enfance. Les ados, le vrai, répondent plus vite que ça. Les ados vous emmerdent et plus grave que ça. Les ados baissent son bras, tombent amoureux comme ça. Les ados tombent enceintes amoureusement aussi facilement que ça. Les ados larguent les copines enceintes fastoches comme ça. Les ados vous narguent de vieux cons comme ça. Les ados boivent vite des bières vodka comme ça. Les ados se droguent, rien à foutre de ça. Les ados SMS sont disant quoi, toi, moi, ça? Les jeunes adultes sont, écoutez-moi bien, exigeants, quoi. Les jeunes adultes choisissent longuement, très longuement, leurs vêtements. Les jeunes adultes sélectionnent longuement, plus longuement, leurs chaussures. Les jeunes adultes hésitent beaucoup en choisissant un sandwich. Les jeunes adultes se téléphonent pour décrire leur sandwich. Les jeunes adultes se téléphonent pour décrire leurs chaussures. Les jeunes adultes se téléphonent, se décrivent en se téléphonant. Les jeunes adultes se moquent des gens qui téléphonent. Les jeunes adultes dépriment, se font mal, se suicident. Les adultes disent plus rien, mais crient des fois. Les adultes manient mal le portable, le jeune rigole. Les adultes, tu vois, c'est le Père Noël. Les adultes disent, ta gueule qu'on a, mais avance, bordel. Les adultes, non consentants, sont priés de s'abstenir. Les adultes chialent devant le feu de l'amour. Les adultes boivent du vin en criant, finis ton eau. Les adultes sont lâches, misérables, arrogants, dépendants, pitoyables, courageux. Les adultes de nos jours partent en couille, quoi. Les vieux trichent pas mal en rattrapant la jeunesse. Les vieux sont jamais là quand on le téléphone. Les vieux disent qu'on ne le téléphone jamais. Les vieux touchent une retraite que moi je finance. Le vieux râle parce qu'on ne sait plus bosser. Le vieux, il faut les tuer dès la naissance. Le vieux joue des coudes en prenant le métro. Les vieux disent que tout existe maintenant, mais tout. Les vieux dépriment, glissent dans le silence des adieux. Les morts nourrissent la terre, la mer, le ciel. Les morts font plus chier que par leur absence. Les morts sont là, au cimetière, au nom seulement. Les morts sont ni présents ni absents sous terre. Les morts sont aussi présents qu'absents sur terre. Les morts, c'est bientôt toi, moi, lui, elle. Les morts sont aussi chiants qu'un enfant roi. Les morts sont aussi dissipés qu'un parent alcoolique. Les morts, c'est le silence. Précisément le vrai. Et je passe la parole à Monsieur Mathieu Arsenault.
Sous le sommeil. Rien de spécial n'est arrivé et rien de spécial n'arrive jamais non plus. L'essentiel est invisible et l'essentiel, c'est une vie complètement vide de systèmes organiques qui fonctionnent à peu près tout seul. La température est régulée, un trou est réparé, une réserve de graisse est convertie en énergie, debout, assis, couché, respirer, manger, s'épuiser à des activités corporelles qui nous concernent à peine. C'est l'essentiel des semaines à perte de vue. Quelle vie inconsciente pour cet homme invisible qui parle et qui marche en plein milieu de la circulation de son propre sang. Comment seulement s'imaginer penser par soi-même dans 80% d'eau et des fils électriques du cerveau à ses doigts? Et à qui surtout s'adresser quand tout commence à se dérégler? Un cheveu qui blanchit, un muscle qui claque, un organe qui cogne, un nerf qui brûle, une toux pour rien, une tache sur l'avant-bras, j'ai la vie brève et l'angoisse du condamné. Je tapote mon oreiller et je cogne des clous entraînés malgré moi dans le sommeil de personne. Mourir, dormir, rien de plus et dire que par ce sommeil nous mettons en veille tous les systèmes, le cœur qui s'épuise à battre, les mille tortures de toutes ces cellules qui meurent les unes après les autres et le code génétique qui dérape jusqu'à mourir, dormir peut-être, rêver. Mais dans ce rêve, s'épuiser encore à travailler toute la journée, à se brûler comme un malade, les cellules devant son ordinateur, à compter des unités de système comparatifs classées en ordre décroissant selon les fonctions distributives et les comportements de chacun des éléments tels qu'ils interagissent dans leur environnement complètement déterminé. Dans chacune de nos réactions, je suis ponctuel, je suis poli, je fais tout ce qu'on me demande de faire, je trouve qu'on me rémunère suffisamment, je trouve qu'on me complimente rarement, je suis parfaitement d'accord, plutôt en désaccord, plutôt en accord, plutôt en désaccord, totalement en désaccord avec l'injure des supérieurs, l'orgueil des chefs de service, l'humiliation de l'employé, je paraisse quand personne ne regarde, je culpabilise quand je perds mon temps, je remplis un formulaire, je connais mon clavier, je connais ma tasse de café, mon bloc de post-it, mon petit comic de Dilbert épinglé sur le babillard et ma boîte de courriel est pleine de jokes de sexe que mes collègues m'envoient et je regarde par la fenêtre en rêvant à mes vacances. Mais dans ce rêve, travailler encore à pas finir tout seul, être intéressant en toute occasion, avoir quelque chose à dire, amuser la galerie, être spirituel et toujours trouver que c'est donc intéressant tout ce que les autres racontent et que c'est donc injuste toutes les flagellations et les dédains du monde qu'ils ont dû subir, les mépris de l'objet aimé, les rebuffades de l'amour éconduit et les écouter pendant des heures arpenter leur existence ordinaire et banale de travailler dans une job qu'ils aiment pas mais que c'est temporaire. Les écouter trouver que le plus important, c'est la beauté intérieure, de toujours garder la flamme de la passion et de vouloir déménager dans une maison de campagne, d'avoir deux gros chiens dans un petit coin loin de la ville où il n'y aurait pas d'ethnie, juste du monde normal qui parle français et je sais pas quelle niaiserie encore et se flatter le dos après 5 pintes et s'épuiser sur une piste de danse jusqu'à se frencher en regardant sa montre avant que le bar ferme, manger une poutine à la cantine, rentrer chez soi, se nettoyer dans la salle de bain, se déshabiller dans la chambre, je suis sous, je bande mou, elle mouille, je pénètre, je rentre, je sors, ça monte, je cherche quelque chose d'érotique à dire, genre je te veux en moi et je commence trop tôt à gémir, mais ça monte, elle est interchangeable, je suis interchangeable et je finis par venir, mais dans ce rêve se trouver quand même spécial, unique et important de seulement exister, d'avoir une opinion, des désirs et des projets, prendre une marche, juste une marche, sentir une fleur, juste une fleur, admirer un coucher de soleil, la première première gorgée de jus d'orange pressé, l'encre du journal sur les doigts, une boule de papier tombée exactement dans le bac de recyclage, et encore mille et une minuscules merveilles qui s'accumulent et qu'on remarque même plus après 1 million de fleurs, 40 000 couchers de soleil, des hectares d'orangers, les nouvelles déprimantes du monde entier en des tonnes d'exemplaires de journaux lus par des milliards de personnes qui se partagent un ensemble fini d'opinions, de désirs et de projets, qui se battent entre eux dans l'espoir d'en réaliser quelques-uns en écrasant ceux des autres si nécessaire. Comment, mais comment s'imaginer encore spécial et unique au milieu de milliards de gens imparfaits, hypocrites et revanchards qui grognent et qui griffent, et dans cette foule, je fais mon gros possible, mais mon possible est peut-être le 180 290 866e meilleur en Amérique du Nord, ex aequo peut-être avec un adolescent au Brésil qui prend des marches, qui sent des fleurs et rêve comme moi de laisser une trace, une marque, un graffiti, même minuscule dans la mémoire, même défaillante, d'une ou deux personnes, mais dans ce rêve, encore, toujours et toujours la misère de l'existence, sentir qu'on pourrait arriver à le dire à force de travailler la langue et le style des nuits de temps passées, à lire des classiques, à taper des kilomètres de lignes serrées, à remplir le disque dur de carnet.doc, tout jeter pour ne garder que le meilleur et réussir à enfin se faire publier, recevoir des critiques dithyrambiques, donner des entrevues, être invité à collaborer à des collectifs, des numéros de revues, mais n'être à la fin qu'un auteur et rien d'autre qui s'épuise à répéter cette impossibilité qu'il y a d'être et pourtant de n'être rien d'intéressant ou de nouveau sous le sommeil des millénaires et se rendre compte en pleurs que tout a déjà été dit bien mieux par Platon ou Kafka ou Shakespeare. Qui, mais qui pourrait supporter tout ça et gémir et suer sous une vie accablante si la crainte qu'aucun de ses textes ne survive à sa mort ne nous faisait préférer supporter ces mots-là plutôt que de se délivrer tout ça d'un simple coup de poignard? Ainsi, la réflexion fait de nous des lâches. Ainsi, la décision perd sa couleur native dans les pâles ténèbres de la réflexion. Ainsi, les entreprises les plus énergiques et les plus importantes se détournent de leur cours à cette idée et perdent le nom d'action. Rien de spécial n'est arrivé et rien de spécial n'arrive. Une cellule meurt, un formulaire est rempli. On reste seul dans son lit, même en cuillère, et on s'épuise en redite. Mais taisons-nous, j'entends venir la belle Ophélie. Des extraits de mon dernier livre, vu d'ici. C'est tellement fier de son pays. Ça pense vivre dans un Québec vert, progressiste, ouvert sur le monde et absolument non conservateur, désintéressé du profit. Ça pense avoir une identité distincte, ça pense avoir un système absolument démocratique, une culture en santé, une langue bien vivante. Mais sur cette rue où j'habite, on parle en français, mais on pense en argent, on écoute des publicités, on lit des circulaires et des catalogues, on court les spéciaux, on va dans le sud à fort frais et on vote pour les gagnants car c'est l'économie globale qui décide à notre place. Le Canada occupe le 7e rang dans l'économie mondiale et son produit intérieur brut, le PIB, est estimé à 581 milliards de dollars donné de 1998. Le PIB par habitant s'élève à 19 160 dollars américains par année. Les trois quarts environ des exportations du Canada sont destinées aux États-Unis. Et comment, au milieu de tous ces mécanismes de production, d'échange, de profit, comment, au milieu de toute cette circulation d'argent, pouvez-vous espérer qu'on puisse encore penser par soi-même? On voudrait recycler et économiser l'eau, on voudrait prendre le métro, on voudrait manger bio, équitable, terroir et santé, mais on est trop fatigué quand on revient de travailler. On prend une douche de 20 minutes, on fait venir du Saint-Hubert, puis on passe nos soirées devant la télé à gueuler que tout est de la merde, que rien fonctionne, que rien est plus de comme avant, dans le temps qu'il y avait des vraies élections, des vrais chefs, des vrais problèmes, quand il y avait juste 6 clubs au hockey, puis qu'on savait se tenir debout. Et pendant tout ce temps, je ferme ma gueule parce que nous sommes un peuple inculte et bègue, et mon pays, ce n'est pas un pays, c'est voter pour la neige et perdre ses élections de glace sur le lac. Et année après année, je fais la file au bureau de vote de tout ce givre sur mon visage. On se voit plus, on se parle plus près de l'écran froid, la vite mortelle d'ennui que j'ai, que je gis en space devant la télé quand ils annoncent qu'Israël veut plus négocier, que l'Iran s'arme, que le Canada est du côté des pollueurs et des bourreaux, qu'on nous déconseille de sortir de chez nous. Je n'ai rien pu faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus à qui m'adresser, alors je fais rien. Je me tais à défaut de savoir crier de glace, je prends mon bain, j'écoute mon film, mon quiz, mon talk show. Où vis-je? Où vais-je? Nulle part ailleurs que dans mon pays de neige, d'où la pensée et l'action politique s'en sont allées, et j'ai moi-même à peine l'énergie qu'il faut pour aller travailler, et je répète à qui veut l'entendre que je suis en pleine forme, en pleine vie, et que le bonheur est à notre portée. Quand on y croit très fort, nos rêves se réalisent, et qu'importe les obstacles, l'amour sera toujours vainqueur. Mais tout cet amour que j'ai, l'ai-je, t'ai-je, Je t'aime, t'aimais-je, t'ai-je, m'ai-je, n'ai-je. Sur la télé, après que le poste soit fermé, tout seul dans l'obscurité, sans rien penser, je garde les yeux ouverts et... Un jour, nous ne serons plus rien, le vent dans le rideau et le rayon de soleil qui pointe de la fenêtre sur la table, sur mon doigt qui tapote sur la nappe en plastique et mon œil pique. Qui suis-je, mais qui suis-je donc? Je me gratte distraitement et je bâille et j'attends paresseusement que la clochette du micro-ondes résonne et tout le bruit du ventilateur, tandis que derrière moi tourne dans le four cette boîte givrée de fruits de mer, des fonds marins, d'écosystèmes vieux de millions d'années, raclés, dévastés, ruinés par des chalutiers qui congèlent des bâtonnets de poissons insignifiants, sans saveur, surgelé, puis dégelé, puis déchiqueté distraitement par des milliards de dents, dans des millions de maisons comme la mienne, dans des foyers comme le mien. Les petites cheminées fument, les millions de cellules de chaque corps humain décortiquent, brûlent chacune des particules ingérées à la pelletée. Une diète enchaîne l'autre parce qu'il faut faire rouler l'économie, il faut faire circuler les stocks, il faut dépenser, il faut tout brûler. La graisse, les kilos, les livres, les animaux, les travailleurs, les ouvriers, les employés, il faut tout incendier au nom de la productivité pour alimenter le forage humain qui creuse à l'intérieur. Fini. Chaque grosse usine à rien qui passe ses grandes soirées sur son fauteuil. En avant toutes, il faut raser toutes les forêts, faire brûler tout le combustible disponible, rayer de la carte des espèces entières, des cultures entières, des peuples entiers, pour arriver à évider l'intérieur d'un corps si parfaitement, lui vider la tête, épuiser chacun de ses muscles si parfaitement jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se tenir autrement qu'immobile devant cette télé qui achève le travail, grattant ce qui reste derrière mon crâne immaculé, je me sens glissé vers la perfection lisse d'une donnée statistique. Et j'étais dans mon salon et je me suis dit, cette fois, ça suffit, la politique de la terre brûlée ne prendra plus sur nous. Jurons-nous de nous cultiver, même s'il faut que Gaston Miron passe à la poule aux œufs d'or, que Véronique Ploutier joue dans une pièce de Michel Tremblay et que Régent Ducharme gagne Star Academy. On va s'accrocher, même s'il reste seulement quelques phrases d'un roman formaliste pas comprenable, ou un petit poème qui rime même pas, cri bizarre de batèche que je vous garoche mes volées de pantoufles de haine le long des oreilles de la TV. Je suis prêt à mourir les yeux dans un livre plutôt que de me perdre encore une fois dans une soirée de talk show, poche de quiz niaiseux et de téléroman bâclé. Merci, bonjour, mon sac de popcorn est chaud, ma caisse de bière est ouverte, le téléphone est débranché, j'ai sorti plein de livres, ils sont sur la table du salon, forcément. Forcez-moi pas à m'en servir. Alors ce soir, forcez-vous le cul et donnez-moi de la bonne télé. Merci.
Alors, on enchaîne avec Marcel Benabou, Louis Gauthier, Geneviève Le Tartre et Hervé Le Tellier.
L'amour de la langue française, c'est aussi, bien entendu, l'amour de la poésie française. Et l'amour de la poésie française, c'est l'amour de l'alexandrin qui est le trésor de la poésie française. Et l'alexandrin classique a une vertu qui n'a pas encore été suffisamment utilisée, qui est qu'il est composé de deux hémistiches qui peuvent être bien séparées. Et qu'il est dommage que tous ces alexandrins merveilleux que nous ont légués les poètes depuis le XVIe siècle jusqu'à quasiment aujourd'hui, que ces alexandrins et que ces hémistiches n'aient été utilisés qu'une fois. Dans le temps qui est le nôtre, qui est celui du recyclage, il est dommage qu'on ne puisse pas réutiliser les hémistiches. Et c'est ce que je me suis donné comme tâche. Et je greffe des alexandrins, je greffe des hémistiches sur d'autres hémistiches pour composer de nouveaux poèmes qui sont donc parfaitement classiques, puisque tous leurs éléments sont classiques, et parfaitement nouveaux, puisque les hémistiches n'ont jamais été mis dans cet ordre-là. Et voici ce que ça donne sur deux poèmes de Baudelaire, Les chats. Les amoureux fervents, des matins triomphants. Aiment également, dans le cabinet noir, les chats puissants et doux, comme des chairs d'enfants, qui comme eux sont frileux sous l'écorce des pierres. Amis de la science et de Pasiphaé, ils cherchent le silence et les cris de la fée. Les rêves les eût pris au soir à la chandelle, s'ils pouvaient au servage adorer l'éternel. Ils prennent en songeant cette mâle gaieté des grands sphinx allongés au théâtre français, qui semblent s'endormir aux feuillets souvent lus. Leurs reins féconds sont pleins d'un reste de verdure et des parcelles d'or d'une profonde nuit étoilent vaguement des vols qui n'ont pas fui. Et donc les chats, j'ai conservé tous les premiers hémistiches et j'ai greffé de nouveaux deuxièmes hémistiches puisés dans le fond commun des alexandrins qui nous sont familiers. Et le même exercice avec Chant d'automne, toujours de Baudelaire. Bientôt nous plongerons hors du charnier natal. Adieu, vive clarté qui tombe des étoiles. J'entends déjà tomber, sentant sa mort prochaine, le bois retentissant des souffrances humaines. Tout l'hiver va rentrer dans le cabinet noir, haine, frisson, horreur, qui reviennent le soir. Et comme le soleil à la clarté des lampes, mon cœur ne sera plus amoureux d'une étoile. J'écoute en frémissant des fleuves impassibles. L'échafaud qu'on bâtit s'énonce clairement. Mon esprit est pareil à la tour abolie sous les coups du bélier de la mélancolie. Il me semble, bercé d'un reste de verdure, qu'on cloue en grande hâte un triomphe sans gloire. Pour qui, c'était hier une âme de 20 ans, ce bruit mystérieux, c'est mon commencement. Vous voyez donc qu'on arrive à obtenir des sonnets parfaitement classiques et parfaitement nouveaux. Et puis, je vais vous lire maintenant un classique des lectures oulipiennes, qui est un texte de Pérec, un monovocalisme, c'est-à-dire un texte où n'est utilisée qu'une seule voyelle, toujours la même, vous allez deviner très vite laquelle c'est. What a man! Smart a Falzar d'Alpaga Nakara, Fracaraba, Brassard à la Franz Hals, Chapka d'Astrakhan à Gland à la Cranach, Bas blanc, Gant blanc, Grand crachat d'Apara Astras, Raglan afghan à Falbala, Andras Macadam, Machant d'Agassan Partaga, Ayant à Dada l'art d'Alanlad, Kavala dans la Pampa. Passant par là, pas par hasard, marchant à grands pas, bras ballants, Armand d'Artagnan, crac, pas bancal, as à la Sana, la Graffa. Car l'an d'avant, dans l'Arkansas, flashback. Carambac, la Mamax, pas cap, lança Andras, par Allah tapa la baraka, cracha Max, par Satan, bava Andras. Match pas banal. Andras Macadam, campagnard pas bavard, bravant Max van Zapata, malabar pas marrant. Sa barda, sa castagna dans la cagna cracra, sa balafra, ça à la malle, ah là là, splatch, paf, scratch, bang, crac, ramdam astral. Max planta sa navaja dans l'avant-bras d'Andras. Ça ratapa, ça va pas, fada? Brama Andras, s'affalant à grand fracas, Max la cabla, ha ha, caf la grand, d'asma sagrada, ça va à part ça? Bâtard vachard, castra à la flanc, râla Andras, blafard. Bang, bang! Andras Macadam cracha sa valda, Max l'attrapa dans le baba, flancha, flagada, agar, raplapla. Baraka, Maharaja d'Alcantara, va, Barabbas! Scanda Andras. Alas, alas, Anamax Clamson. Andras Macazam, Alcatraz, Armand d'Artagnan avança dans sa saga, cravatant Lanar Abraham Hawkes à Rabat, passant à tabac Clark Marshall à Jaffa, scalpant Frank Madman Santa Campana à Malaga, fracassant Baltar, canardant Balthazar Stark à Alma-Ata, Kazakhstan, massacrant Pascal Achard à Granada, cachant l'Aga Khan dans sa jague à Makassar, acclamant la Calas à la Scala, gagnant à la Canasta à Jakarta, dansant Samba, Java, Xardas, Raspa, Cha-Cha-Cha à Caracas, valsant à Bandarabas, adaptant Franz Kafka à l'Alhambra, Gadda à l'Alcazar, cravant Tsara, Char à Bataclan, Hans Falada à Harvard, paraphrasant Chaban à Kajar, calfatant yacht, catamaran, chaland à Grand Bassam, sablant Tara, Anap, cramant Dayala, allant dans sa Packard d'Atlanta à Galahad's Ranch, Kansas, lampant Schnapps, Grappa, Mar, Armagnac, Marsala, avalant calamar à l'ananas, taramas en safran, gambas, cantal, clams d'Alaska, chassant panda à Madagascar, chantant mal, bac, brahms, franck à Santa Barbara, barman à clamar, watman à gant, marchand d'abat à Panama, d'agaragara à Arras, dama à 40 ans, charmante à Ankara, la vamp Amanda, la star dans Twas a Man Astolas Caracalla, catchant à Marmara, dans la Kasba d'Akbar, Nabab d'Agra, grand flambard, passant d'anthrax nasal, sans mal, tar, tar, dans sa datcha à Karl-Marstadt, s'arrassant dans l'alarmant grabat à drap blanc, lançant Atlas, Glafatal, Abracadabra. Et c'est signé Gargas Parak. Et je cède la parole à Louis Gauthier.
Alors, pour l'amour de la langue française, je vais vous lire des extraits des aventures de deux personnages qui ont des noms latins. Les aventures de Civis Pacem et de Parabellum, tome 1, que j'ai publié en 1970, c'est pourquoi je demande donc votre indulgence. Je commence au chapitre 2, où l'on voit que l'éditeur aurait dû réfléchir un peu avant de publier des insanités pareilles. Supposons un instant qu'il existe quelque part une ville qui se nomme Ababrupto. C'est la première fois que nous en entendons parler. Ce doit être une bien petite ville, guère plus grosse que Abab-Surdo, par exemple. Elle porte un nom étrange, Ababrupto. Ce ne doit pas être une ville américaine, ce doit être une ville africaine, une de ces petites villes le long du littoral atlantique. Ce doit être un petit port de mer quelque part en Afrique. Or, justement, et c'est ici que cette histoire commence, un navire s'approche d'Ababrupto. Pétrolier, cargo, ce serait banal. Non, regardez bien, c'est un yacht de plaisance. Nous pourrions nous le décrire, il ressemble nécessairement à tous ceux que nous connaissons déjà. Un détail intéressant cependant, sa cheminée crachote deux ou trois nuages de fumée qui, dans le langage télégraphique des Indiens Comanches, signifie « je voudrais encore un peu de café, s'il vous plaît ». Mais il n'y a pas d'Indiens Comanches dans la région et d'ailleurs, il ne reste plus de café. De sorte que ce détail, pour intéressant qu'il soit, demeure sans importance, faute d'une interprétation convenable. J'allais ajouter quelques remarques, mais à ce moment précis, un canot automobile fut mis à la mer. Une femme prit place à l'avant pendant que deux matelots en uniforme blanc s'installaient à l'arrière. Cette femme, vous l'avez deviné, c'est la princesse Brodie 3X. Elle est belle, très belle. Sa peau est d'un noir d'ébène. Ses cheveux aussi sont noirs. Ses yeux aussi. Elle est nue, mais ça la regarde. Et au fond, cela nous fait bien plaisir de regarder aussi. Une fois ainsi décrite, la princesse Brodie 3X posa la tête sur ses genoux repliés et s'adressa aux deux matelots dans un français impeccable. « Messieurs, vous savez qu'à partir de maintenant, tout peut nous arriver. « Ja !» répondit avec éloquence le matelot allemand, celui qui s'assoyait toujours à tribord. « Je vous prierai donc de faire preuve de vigilance, » ajouta la princesse. « Ja !» répéta le matelot suisse qui s'asseyait toujours à bâbord. Et pour bien montrer qu'elle ne plaisantait pas et que le danger était réel, la princesse improvisa dans son dialecte natal une courte prière pour le salut de leurs âmes. « Gua nabdalagon, nuaba da galaon, gua badalashnada, gua badalashnada, gongana tuaba shaon, gua badalashnada, toka kawa toka kiwa, nadalagaon, gongana kiwa, buanwabon, gua badalashnada, gua badalashnada. » Récité par la voix langoureuse et chantonnante de la princesse, cette prière était très triste, très mélancolique, très émouvante, même si on ignorait le sens des mots. Même si on ignorait le sens des mots, on devinait qu'il voulait dire quelque chose comme « Âme de mon âme, petite âme vaporeuse, âme, petite âme heureuse, petite âme un peu peureuse, petite âme rose et pieuse, petite âme rose, repose heureuse dans les prés éternels, dans la rose et rose à l'orée du ciel, âme, petite âme heureuse, petite âme un peu peureuse, de ma petite âme, amen. » Alors le matelot allemand qui s'assoyait toujours à tribord et le matelot suisse qui s'asseyait toujours à bâbord poussèrent un profond soupir et pleurèrent doucement. Mais le bruit de leurs sanglots fut bientôt couvert par la pétarade du moteur, un moteur marin Johnson de 95 hippocampes vapeur qui les emportait sans poésie mais avec rapidité vers le petit port d'Ababrupto. Chapitre 3. Cependant, très loin de là. Cependant, très loin de là, et plus précisément à Montréal, Sivis Pacem était très loin de se douter de ce qui se passait très loin de là, à Ababrupto. D'ailleurs, il ignorait même l'existence d'Ababrupto, de sorte que si Ababrupto avait été le nom de Dieu, on aurait pu prétendre avec raison que Sivis Pacem n'était qu'un vulgaire païen. Mais ce n'était pas le cas, car, nous l'avons vu, Ababrupto était le nom d'une petite ville africaine. Sivis Pacem n'était donc pas un vulgaire païen, mais un vulgaire ignorant. Par contre, il était très riche. À ce propos, voici son histoire, elle explique tout. Histoire de Sivis Pacem. Tout jeune, Sivis Pacem vendait des journaux dans les rues de New York pour aider à boucler le budget familial que son père buvait presque entièrement. Son père, hélas, et en effet, était alcoolique. Cela avait commencé alors qu'il étudiait la médecine. L'argent, à cette époque, lui brûlait les doigts. Son père lui en donnait à profusion. Il était riche, il voulait éviter à son fils de connaître l'enfance difficile que lui-même avait connue alors qu'il devait vendre des journaux dans les rues pour aider à boucler le budget familial, car son père était alcoolique. Il avait commencé à boire lorsqu'il était encore jeune, à l'époque où il étudiait la médecine et dépensait des fortunes dans les boîtes de nuit. En effet, son père lui donnait tout l'argent qu'il voulait pour lui éviter de connaître l'enfance difficile que lui-même avait connue alors que tout jeune, il devait vendre des journaux pour combler les déficits que l'alcoolisme de son père créait depuis l'époque où, étudiant en médecine, il s'était mis à boire et à dépenser en folie l'argent que son père lui donnait pour compenser celui qu'il n'avait pas eu tout jeune quand il devait vendre des journaux pour subvenir aux besoins de sa famille que ne nourrissait plus son père, alcoolique depuis l'âge où il avait étudié la médecine grâce à l'argent que lui donnait son père. Ce père, c'était Christophe Colomb lui-même. Pour les amateurs de généalogie, ajoutons que les ancêtres de Sivis Pacem furent ensuite, dans l'ordre, le fils de Christophe Colomb, son petit-fils, son arrière-petit-fils, son arrière-arrière-petit-fils, son arrière-petit-petit-fils, son petit-fils arrière, le fils de ce petit-fils, et finalement le gros Sivis Pacem, qui lui n'avait pas de fils, étant colombophile. D'ailleurs, à son âge, bedonnant et chauve comme il l'était, il aurait bien du mal à trouver une mère pour cet enfant. Bien sûr, il était riche. Il possédait une compagnie de disques, des salles de spectacle, des studios de cinéma, des boutiques de souvenirs, des arrière-boutiques et des arrière-petites boutiques. Ses affaires marchaient rondement. Il avait une réputation enviable dans le monde du show business. Mais par contre, nous l'avons vu, il était très ignorant. Il ignorait, par exemple, où se trouvait la ville d'Ababrupto. Il ignorait aussi qu'elle n'aurait aucune importance dans sa vie et aucun rapport avec cette histoire. En effet, il ne pouvait pas savoir déjà ce qui n'était pas encore arrivé. À la rigueur, s'il avait été l'auteur de ce roman, peut-être. Mais en tant que simple personnage, il ne possédait pas une distance suffisante par rapport au déroulement des événements. De la même façon, Dieu aurait pu lui dire ce qui allait lui arriver. S'il le lui avait demandé avec une foi sincère, Dieu aurait pu lui expliquer qu'il n'était nullement concerné par ce qui pouvait advenir à la princesse Brody 3X dans la petite ville d'Ababrupto. Dieu aurait pu lui dire qu'il s'agissait là d'une histoire totalement différente, publiée chez Grassouillet sous le titre « Aventure de la princesse Brody 3X à Ababrupto, lait ». Mais Sivis Pacem ne voulait pas avoir la vie de Dieu. Il ne croyait pas en Dieu, il ne croyait pas en l'existence de Dieu, il était athée et, je l'ai déjà dit, colombophile. Et puis, je saute à la fin où l'auteur explique un peu, après avoir été pris à partie par ses personnages, explique un peu sa démarche. Certaines gens m'ont reproché un manque de rigueur, disant « c'est facile, c'est n'importe quoi ». Ah oui, et la structure, qu'est-ce que vous en faites? Sans entrer dans les détails, voici quelques précisions à l'intention de ses détracteurs. Si par le chiffre 1, on représente les chapitres qui commencent par « en guise de », qui sont les premiers chapitres de chaque partie, par la lettre A, ce qui arrive à Brody 3X et Fred Flintstone, par la lettre B, ce qui arrive à Sivis Pacem, par la lettre C, ce qui arrive à Bicyclette Premier, Scrapbook, Jello Bananas et Jelly Bean, ce sont d'autres personnages du roman, par la lettre D, ce qui arrive à Sun Life et Liliane, et par la lettre Z, les généralités, on s'aperçoit que chaque partie du livre est construite selon un modèle rigoureux. La première, 1, AB, ABC, ABCZ. La deuxième, 1, ABC, Z, ABCD, Z. La troisième, 1, ABCD, ABCD, Z. La quatrième, 1, CD, A, BD, Z. La cinquième, 1, BCD, A. Et la sixième, 1. Ce n'était pas évident, je sais. Mais après y avoir tellement travaillé, je tenais à ce qu'on s'en aperçoive. Et qu'on ne me parle pas d'absence de structure. Dans un roman comme celui-ci, je veux dire un roman parfaitement stupide, comme tous les romans, si vous n'avez pas de structure, vous ne savez ni où commencer, ni où vous arrêter. Et vous ne savez pas quoi mettre entre les deux. Ce n'est évidemment pas le cas ici, où tout procède d'une rigoureuse nécessité intérieure. Merci. Geneviève Letarte.
Bonsoir. Je vais vous faire quelques poèmes que j'appelle des poèmes troués, qui m'ont été inspirés par un monsieur qui s'appelle David Bessis. Je ne sais pas si nos collègues français le connaissent. C'est un ami, bon, c'est le fun. Donc, c'est un monsieur qui est mathématicien et... pardon? C'est ça. Et puis, il a écrit un livre qui s'appelle Ars Grammatica. Et ce livre se présente sous la forme de graphes. Donc, ce sont des... petite page, c'est publié chez Alia, donc c'est un tout petit livre. Et les poèmes, si on veut, se présentent sous forme de graphes, donc les mots sont entourés comme dans des bulles et puis sont reliés les uns aux autres par des lignes. Et puis on peut les lire un peu dans tous les sens, puis ça fait comme des poèmes. Et je crois que c'est inspiré des formules mathématiques, en fait, pour composer ces petits textes. Alors, un hiver de déprime, je me suis amusée à le copier. Et puis j'ai fait toutes sortes de petites cartes comme ça avec les mots. Alors, voilà ce que ça donne. Mon amour gris, mon amour bleu, mon amour mauve, mon amour gris, mauve et tout le reste. Il dort, il ronfle, il tressaille, il se tait. Il pète, il soupire, il se tait, il tressaille, il dort, il ronfle, il dort, il ronfle, il dort. Travail, fatigue, excitation, oubli, fuite, blessure. Fuite, oubli, blessure, fuite, oubli, excitation, fatigue, travail, fatigue, travail, fuite, oubli, blessure, excitation, fatigue, travail, fuite, blessure, oubli. Voix, criarde, laide. Voix, intérieure, belle. Voix, intérieure, belle. Voix. Génie, beauté, intériorité, moi. L'autre petit fermé, moi, intériorité, génie, beauté, incompréhension, incompréhension, l'autre petit fermé, incompréhension, moi, génie. Le corps, laid, beau, nu, frissonnant. Le corps, les pensées sauvages, inhibées. Les pensées joyeuses au matin, sauvages, inhibées. Les pensées sauvages, inhibées. Les pensées sauvages, le corps frissonnant. Samedi, déneigeuse, froid, dehors, soir. Samedi, nous, dedans, silence, soir. Samedi, soir. Samedi, soir. Matin, moi, confusion. Matin, toi, circonspection. Matin, toi, l'énigme. Matin, moi, toi, confusion. Comprendre, soit l'autre, aimer, détester l'autre, se souvenir, soit sourire l'autre, décevoir, sourire, soit comprendre, décevoir, sourire, soit l'autre, comprendre, aimer, détester, se souvenir l'autre, détester, aimer, détester l'autre, aimer, détester l'autre, soit comprendre, décevoir, sourire l'autre, soit l'autre, décevoir, sourire l'autre, se souvenir, détester l'autre, soit merde. Maison, neige, 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 neige. Neige, vent, neige, 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 vent, neige, maison, neige, 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 maison, neige, 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 vent, neige, neige, vent, neige, maison, neige, vent, neige, neige, vent, neige, vent, neige, neige, maison, neige, vent, neige. La nourriture, les amis. Le vin, la tisane, la musique, les fauteuils, la nuit. La nuit, les fauteuils, la musique. Les fauteuils, la musique, la tisane. La musique, la tisane, le vin. La tisane, le vin, les amis. Le vin, les amis, la nourriture, les amis. La nourriture, les amis, le vin, la tisane, la musique, les fauteuils, la nuit. Les fauteuils, la nuit, la musique, le vin, la tisane, la tisane, la tisane, la tisane, la tisane. Couverture, rouge, chaude, intime. Larmes, nuit, froide. Couverture, chaude, larmes, froide. Nuit, couverture, rouge. Grand-mère, mère, fille 1, fils 1. Grand-mère, mère, fille 2, fils 2. Grand-mère, mère, fille 3, moi, pas d'enfant. J'accepte l'immersion. J'accepte le soleil. J'accepte les traces. J'accepte l'immersion, les traces, j'accepte. Vie, souffle, corps, esprit, cœur, rêve. Vie, souffle, corps, esprit, cœur, esprit, cœur, esprit, corps, corps, cœur, esprit, souffle, corps, esprit, cœur, souffle, corps, esprit, vie, rêve, souffle, corps, vie, cœur, rêve, esprit, corps, souffle, cœur, rêve, vie, souffle, corps, esprit, corps, esprit, corps, esprit, corps. Le ciel appelle le bleu, appelle le vent, appelle le large, appelle l'infini, appelle le large, appelle le vent,
appelle le bleu, appelle le ciel, appelle le vent, appelle le bleu, appelle le large, appelle l'infini, appelle l'infini, appelle l'infini, appelle l'infini, appelle l'infini, appelle l'infini, appelle l'infini. Voilà, merci. Et maintenant, Hervé Letellier.
J'arrive en dernier, donc je dure aussi longtemps que je veux. J'ai commencé par lire un extrait des amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable, qui sont 1000 réponses à la pensée, à la question « À quoi tu penses ?» À quoi tu penses ? Je pense que quand j'étais gosse, j'écrivais au Père Noël et qu'aujourd'hui encore, il m'arrive d'imaginer les trois souhaits que je voudrais voir exaucés si je rencontrais une fée. À quoi tu penses ? Je pense que l'oreille absolue existe, mais pas le nez absolu, ni l'œil absolu, ni même le sexe absolu. Et au demeurant, je me demande ce que ça pourrait être si ça existait. À quoi tu penses ? Je pense que non, Mathausen n'est pas un opéra de Wagner. À quoi tu penses ? Je pense que je suis incapable de résister à une femme à qui je plais, et je m'en moque d'être un type facile. À quoi tu penses ? Je pense qu'en roulant sur l'autoroute, on aperçoit de très jolis châteaux où on aimerait bien habiter. Et puis on se rappelle qu'ils sont près de l'autoroute. À quoi tu penses ? Je pense que personne ne s'étonne de la présence de monologues au théâtre, alors qu'il n'y a quand même que les dingues qui parlent tout seuls. À quoi tu penses ? Je pense qu'il s'est passé plusieurs années entre le moment où j'ai compris que j'allais mourir et celui où j'ai compris que j'allais d'abord vieillir. À quoi tu penses ? Je pense qu'avec un peu d'imagination, on a du mal à rester fidèle, mais qu'avec énormément d'imagination, ça doit être possible. À quoi tu penses ? Je pense que j'ai pas beaucoup d'imagination. À quoi tu penses ? Je pense que j'ai déjà dit à une fille que j'étais pas libre tel jour, mais que le lendemain, d'accord, juste pour lui faire croire qu'il n'y avait pas qu'elle dans la vie, alors que justement, si. À quoi tu penses ? Je pense que mon pantalon est propre depuis si longtemps qu'en fait, il est certainement sale, et que je n'ai pas vu l'instant précis où la transition s'est faite. À quoi tu penses ? Je pense que j'aimerais bien me refaire faire le nez, mais si possible, que ça ne se voit pas assez pour qu'on m'en fasse la remarque. Quoi tu penses ? Je pense que je commence toujours à douter quand trop de gens sont d'accord avec moi. À quoi tu penses ? Je pense que se réveiller la nuit et habituer ses yeux à la pénombre pourrait être une définition de la vie. À quoi tu penses ? Je pense qu'il vaut mieux être aimé pour sa fortune. La beauté ne prend pas 5% par an. À quoi tu penses ? Je pense que je ne passe jamais une soirée avec une femme sans penser ne serait-ce qu'un instant à une autre femme. À quoi tu penses ? Je pense que j'aimerais beaucoup, mais vraiment beaucoup, pouvoir aller vers une fille dans une soirée et lui dire sans mentir, parce que ça serait mon nom, « My name is Bond, James Bond ». À quoi tu penses ? Je pense que la couleur de tes yeux doit être 574 dans le nuancier Pintone. Quoi tu penses ? Je pense que lorsque je suis confronté à un décolleté généreux, je dépense une énergie démesurée pour fixer la femme dans les yeux, alors que peut-être ça ne le dérangerait pas trop que je regarde ses seins. À quoi tu penses ? Je pense qu'il m'arrive de plus en plus souvent de ne plus me souvenir du nom d'un écrivain ou d'un artiste. Pas plus tard qu'hier, c'était avec je ne sais plus qui. À quoi tu penses ? Je pense que c'est facile d'être modeste, surtout quand on a des raisons de ne pas l'être. À quoi tu penses ? Je pense que si tu m'aimais autant que moi je t'aimerais moins, mais que si tu m'aimais autant que toi tu m'aimes, tu m'aimerais plus. À quoi tu penses ? Je pense qu'il m'arrive de parler tout seul, mais jamais lorsque je suis vraiment seul. À quoi tu penses ? Je pense que si j'avais un marteau, tout autour de moi finirait par ressembler à un clou. À quoi tu penses ? Je pense que je ne sais pas ce qui est préférable, être un écrivain célèbre l'année prochaine ou un écrivain célèbre l'année dernière. À quoi tu penses ? Je pense que si je me laissais pousser la moustache, ça me régénérait peut-être de 10 ans, vu qu'il y a 20 ans, ça me vieillissait d'autant. Et je vais lire un... Je vais lire d'abord juste un petit texte qui est une réponse au texte de Paul, qui était... Paul a lu deux textes qui s'appelaient l'un le Cerfèse et l'autre le Lémurien assyré. Les Oulipiens ont tendance à se voler des formes. Et donc je vais vous lire deux formes qui sont dérivées du texte de Paul, lequel était lui-même dérivé d'un texte de Jacques Roubaud et Olivier Salon qui s'appelait « Les sardinosaures ». Et moi je vais vous lire des opossums célèbres, dont le principe est relativement simple et vous allez tout de suite comprendre. Les Brobitols. Dans le zoo de Liverpool, entre Abbey Road et Penny Lane, on peut admirer la lane de 4 ovins dans le vent. Ce sont les Brobitols, yeah, yeah, yeah. Les Brobitols ont les poils longs et belles de jolies chansons. Imagine qu'il n'y ait pas d'enclos, pas de gardiens et pas de zoo, et avec eux, les animaux font obladi et oblada. Les Brobitols mangent tant d'herbes qu'ils croient parfois voir dans le ciel la scie avec des diamants. Ce sont les Brobitols, yeah, yeah, yeah. Je vais en lire un deuxième. Le Omarilyn Monroe. Le Omarilyn Monroe fait jouer dans les courants la pourpre des volants de sa robe corail. Lorsque la mer est chaude, pou pou pidou, la femelle Omarilyn Monroe jette un cri d'amour à la ronde vers les vagues où dansent les mâles, car ceux-ci préfèrent les ondes. On l'attrape facilement en faisant briller un diamant, le crustacé sous somnifère. Au jour de votre anniversaire, dégustez du Omarilyn Monroe que vous aurez mis au frigo, quoique certains l'aiment chaud. Et pour finir, je vais lire, puisqu'il n'y a pas d'enfants dans la salle, je vais lire 5 chapelles Sextine. La chapelle Sextine est une forme narrative, très structurée, qui fait jouer à la fois les principes de la Sextine et les propriétés du nombre 78, qui sont très nombreuses. Vous viendrez me voir après pour en savoir plus. Chapitre 26, donc il y en a 25 avant. Zach et Anna. Sous un porche de la rue des Francs-Bourgeois, Zach s'adosse au mur et attire Anna à lui. Par un entrebâillement des étoffes, il glisse la fraîcheur de ses vieilles paumes enseignantes sur la chaleur des jeunes fesses étudiantes. Il murmure à l'oreille d'Anna une phrase de Georges Bataille : « L'acte sexuel est dans le temps ce que le tigre est dans l'espace », dont la signification lui a toujours quelque peu échappé. « À demain », lui répond Anna en s'éclipsant dans l'escalier. C'est rageant. Dans le caleçon de Zach, le sildénafil, molécule subrepticement avalée sous forme d'un comprimé bleuté, fait peu à peu inutilement effet. Chapitre 27. Anna et Harry. Au troisième étage d'un immeuble de la rue des Francs-Bourgeois, Harry, barbe grise de 2 jours et en peignoir, ouvre la porte à Anna qui aussitôt l'entraîne vers la chambre. Elle ôte ses propres vêtements en chemin, c'est nu qu'elle le renverse sur le lit en riant. Anna lui glisse à l'oreille. « Tu sais quoi ? L'acte sexuel est dans le temps ce que le tigre est dans l'espace. »« C'est de toi ?»« De Bataille, » répond Anna, avant d'engloutir un pénis dodu entre ses lèvres. « Bataille ?» Harry ne connaît pas. Une fois de plus, Harry constate qu'Anna n'a rien de plus que sa femme, mais que décidément, chez lui, l'appétit vient en changeant. Chapitre 45. Wendy et Dennis. La porte électrique du box s'est refermée automatiquement. Wendy s'est insurgée. « Je ne ferai pas l'amour sur le siège avant d'une bagnole !» Mais Dennis a répondu « Ok, allons sur la banquette arrière. » Et le rire a emporté les préventions de principe de la jolie blonde. C'est donc là, sur la couloir centrale, qu'elle subit son assaut. Il la prend par derrière, ventre contre fesse, avec force. Elle mord d'abord le cuir, puis se met à crier, bien que le terme de beugler soit franchement plus approprié. Tous ces cris inutiles, voilà qui exaspère Denis plus encore que les personnes qui parlent au théâtre. Chapitre 58. Denis et Oriane. L'estufa fria de Lisbonne résonne des chants mélodieux des Arae Arorenae, perchés sur les plus hautes branches des Monsterae crassi deliciosae. À l'extrémité d'un bassin envahi par les aichorniers crassipes, caché des regards indiscrets par les larges feuilles d'une forêt de Dicksonae antarcticae et de Pteridiae aquilinae, Denis a relevé la jupe à volant d'Oriane. Le phallus erectus de Denis pénètre atergo, le vaginal lubrificata de la femme, et la fragrance de leur coitus more canino, bientôt interruptus par un groupe d'écoliers, se mêle aux effluves exotiques des cattleyers proustiens. Quelques jours plus tard, Oriane s'apercevra que les chlamydiers que lui a offertes Denis ne sont pas des plantes ornementales. Et enfin, pour finir, le dernier, chapitre 73, enfin, le dernier en tout cas, je vais le lire, Mina et Xavier. L'acte 2 de la Tosca débute à peine. Cavaradossi, John Hartman, pas à son meilleur. Torturé mais enthousiasmé par la victoire de Napoléon à Marengo, entonne un hymne à la liberté. Dans l'obscurité d'une baignoire côté cour, Mina presse fort entre ses doigts le pénis raide de Xavier, recouvrant puis découvrant le prépuce. Inspirée, elle enfile le sexe dans son gant et persiste dans son va-et-vient. Xavier éjacule dans le cuir et la soie en geignant, à l'instant même où Tosca, Anne Boyd, poignante d'émotion, poignard de l'ignoble Scarpia, Giovanni d'Arezzo, formidable comme d'habitude. Xavier se demande s'ils vont continuer à se vouvoyer maintenant. Merci.